Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Le jardin spontané, ou comment reconnaître et cueillir les plantes vagabondes et semi-naturelles pour un jardin écologique et solidaire. L'auteur Noémie Vialard répond aux questions de Jean Tonelli.
Jardin spontané, ça veut dire qu'on laisse faire ?
On laisse faire, mais on a quand même l'œil. Moi, je dis toujours, c'est d'abord ouvrir l'œil. Je jardine beaucoup plus avec l'œil qu'avec la main, en fin de compte. Je me promène plusieurs fois dans mon jardin et je regarde toujours les plantes qui sont arrivées, si elles ne gênent pas les voisines. C'est surtout ça. Donc, je laisse les plantes se ressemer parce que j'adore ça. Je n'aime d'ailleurs que... J'aime beaucoup plus la campagne que le jardin. Donc j'avais envie que mon jardin ressemble à la campagne, avec des plantes qui font un peu ce qu'elles veulent. C'est plutôt ce que j'explique, un jardinage à l'envers. C'est-à-dire que je laisse les plantes que j'ai moi introduites, ou qui sont vues toutes seules, je laisse vivre, et j'enlève ce qui me plaît pas, ce qui convient pas. Donc je jardine à l'envers, je dirais.
Vous jardinez en fait avec la nature et pas contre.
Ah oui, tout fait ce qu'il a envie de faire, mes plantes se portent bien, il n'y a absolument aucun produit qui rentre bien sûr dans mon jardin, ben, les feuilles mortes, elles font l'humus, tout se débrouille, comme j'ai beaucoup de plantes, une grande diversité, j'en ai peut-être 1200 différentes, donc obligatoirement l'une attire le papillon qui est nécessaire pour que l'autre soit pollinisée, etc., etc. Enfin, c'est vraiment vous savez, quand je me balade dans la nature, j'adore ça, hein, je fais des grandes promenades et je trouve jamais plus beau jardin que certaines scènes qu'on peut voir naturelles. Donc j'espère que mon jardin arrive à ça.
D'ailleurs, c'est un peu un mouvement qui prend corps aujourd'hui. La permaculture, c'est aussi retrouver cette forêt fruitière, cette abondance qu'il y a dans la forêt, plutôt que de vouloir tout au cordeau, quoi. Alors moi, ce que j'aime bien dans votre livre, c'est le fait d'avoir donné plusieurs conseils, donc les semis naturels, comment ça se passe, comment on peut les faire, les aider, et puis surtout le petit chapitre en cuisine, c'est superbe parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de plantes qu'on considère comme pas très intéressantes.
Bien sûr, alors qu'elles se mangent, bien sûr. Mon grand plaisir, c'est de faire des conférences autour des plantes qui se mangent. Et j'ai une cinquantaine de plantes différentes. Et avec les gens qui sont à la conférence, on prépare des grandes salades où on mélange ces 50 plantes et on goûte. J'aime autant les orties qu'une plante que j'ai installée qui vient d'ailleurs. Tout est important pour moi. Et là, dans ce livre, là, j'ai eu la chance que l'éditeur me laisse totalement... écrire ce que j'avais envie sur le jardin. C'est moi, je vais vous dire, c'est mon 43e livre et j'ai pris plaisir à celui-ci comme si c'était mon premier parce que j'étais totalement libre de dire ce que j'avais envie de dire.
Et puis surtout, vous n'avez pas lésiné sur les photos. L'iconographie est assez volumineuse.
J'ai passé 2 ans, c'est ça qui a été le plus long. Ça n'a jamais été fait encore, de voir le bébé plante jusqu'à la fin. Il n'y a aucun livre qui représente ça. Et j'ai mis 2 ans à trouver à chaque fois le bébé que je voulais, qui allait grandir, etc.
L'idée, c'est que quand on laisse faire son jardin comme ça, avec des semis spontanés, avec des plantes qui viennent nous rendre visite, et que, bon, j'ai bien compris, vous protégez quand même celles que vous aviez installées vous, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec des plantes qu'on qualifie d'invasives ?
Ah ben bien sûr, mais j'ai un petit chapitre sur les invasives. Il y a quelques invasives qu'on a intérêt à oublier. Les gens qui ont par exemple un jardin au sol très frais n'ont pas intérêt à avoir des grandes impatiences de l'Himalaya, pour vous donner une idée. Parce que c'est une plante invasive. Donc celle-ci, ils ont intérêt dans leur jardin à ne pas l'avoir. Moi, je peux me permettre, j'ai un jardin très sec. Donc je n'ai des impatiences de l'Himalaya qu'à un endroit où j'ai un petit mur végétal avec de l'eau. Donc à chacun aussi de voir la plante qui va être invasive ou pas invasive chez lui.
Il y a un biotope qui convient à une plante et c'est à ce moment-là qu'elle va devenir invasive. Et si ce biotope ne lui convient pas, elle va rester cantonnée à la...
Elle va rester très très sage. Donc moi, j'ai énormément de plantes comme ça qui sont réputées invasives, mais qui sont très 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 sages chez moi. À la limite, j'ai même intérêt des fois à aller leur filer un petit coup d'eau. La grande berce du Caucase, elle est invasive chez beaucoup de gens. Donc il y en a qui l'adorent. Donc ils se débrouillent pour couper systématiquement toutes les fleurs. Comme ça, ne peut pas être invasif, parce que voilà. Et il laisse juste une petite ombelle pour récupérer les graines. Et il n'y a pas de souci. Bon, chez moi, elle ne sera jamais invasive parce qu'elle n'arrive même pas à tenir parce que j'ai un terrain trop drainé.
Donc, vous voyez, à partir du moment où une plante commence à trop se reproduire, ben vous intervenez.
Je me dis, celle-ci, elle n'est pas pour chez moi. Ou alors, il faut que je sois dessus pratiquement tous les jours. Et là, ça devient compliqué.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une biodiversité qui augmente et donc peut-être beaucoup moins de problèmes phytosanitaire qu'ailleurs, puisque les plantes s'entraident.
J'ai absolument aucune maladie. Et puis c'est pareil, si un jour j'ai un rosier qui a une petite tache noire, eh ben nous on a bien des fois un petit bouton sur le nez. Donc il n'y a pas de raison, et on fait rien, on va pas avoir le dermatologue parce qu'on a un bouton sur le nez, on attend que ça passe. On a une petite tache noire sur le rosier, c'est la même chose. Tout se mesure tranquillement et se débrouille, et sérieusement, j'ai absolument aucun problème de maladie dans mon jardin. Le bonheur dans mon jardin, c'est pas d'avoir une plante que j'ai installée et qui pousse bien, c'est vraiment de trouver tout d'un coup un bébé là, et puis qui va grandir, et à un endroit où j'aurais jamais pensé le mettre, en général, elle s'installe, cette plante-là, elle s'installe à l'endroit où il faut. C'est en général toujours joli, et on n'aurait pas pensé l'installer là. C'est vraiment cette surprise de tous les jours. Mais j'ai du macadam chez moi, j'ai une cour, quand j'ai acheté ma maison, j'ai pas eu les moyens de faire autre chose. Le macadam est resté, maintenant le macadam, il est juste, on l'aperçoit à l'endroit du passage régulier. Autrement, je vous assure que je n'exagère pas en vous disant, des centaines de bébés et les bords dans le macadam. Mes premières sont en train de fleurir.
C'est presque devenu un lieu propice à un développement de certaines plantes. C'est magnifique, et puis c'est de bonnes surprises, et la nature fait bien les choses, elle vous fait des cadeaux tous les jours lorsqu'on la laisse faire.
Ah, elle fait des cadeaux tout le temps, c'est un bonheur. Moi, c'est un bonheur. Là, je suis partie, je ne suis pas chez moi, je suis partie de mon jardin pendant 4 jours, 5 jours. Je vous assure, je vais retrouver plein de petites surprises quand je vais rentrer.
Le jardin spontané de Noémie Vialard et Patrick Blanc, aux éditions De La Chaux, Nestlé.